en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, si j'ai choisi la couleur verte pour sujet de ma conférence aujourd'hui, ce n'est pas tant parce que c'est la couleur emblématique de l'Institut de France, ce n'est pas non plus parce que c'est ma couleur préférée, mais c'est parce qu'un étudiant m'a fait, il y a déjà une vingtaine d'années, une remarque tout à fait pertinente qui m'a invité à réfléchir et à enquêter. C'était un jeune doctorant qui travaillait avec un collègue de Paris 4, dont le sujet de thèse était l'iconographie de la forêt dans la peinture française du XVIe au XVIIIe siècle. Et sagement, son professeur l'avait envoyé visiter les musées de province pour prendre contact direct avec les œuvres, plutôt que de travailler sur des reproductions. C'était en outre une époque où il n'y avait pas de banque de données informatisées. Et donc ce jeune homme avait fait le tour d'un certain nombre de musées de province, et puis il était venu me voir pour parler des couleurs, et il avait fait cette remarque qui m'avait frappé. C'est curieux, dans les salles de peinture, dans tous les musées, entre les primitifs et les impressionnistes, tout est marron. Marronasse même, il avait dit, pour prendre un terme dépréciatif. Et quand les peintres s'attaquent au paysage, on a l'impression qu'ils peignent toujours l'automne. Pourquoi ? Alors, je lui avais expliqué que, chimiquement, les pigments étaient souvent instables, qu'ils évoluaient, et que certains s'étaient transformés au fil du temps. Il le savait, mais il ne pensait pas que c'était à ce point-là. Je lui expliquais aussi que nous voyons les couleurs que les siècles passés nous ont laissées dans des conditions de lumière qui n'ont aucun rapport avec les conditions de lumière qu'ont connues les artistes et leur premier public jusqu'à l'apparition de l'électricité. Les écarts sont très très grands. Nous le savons tous, bien sûr, mais qui parmi nous, quand il visite un musée ou une exposition, se souvient qu'il voit les œuvres d'art, et notamment les tableaux, dans des conditions d'éclairage qui n'ont aucun rapport avec les conditions d'éclairage d'origine. Et alors, j'ai testé mes propres étudiants pour voir si ces problèmes leur étaient connus. Je ne leur en avais jamais parlé, je l'avoue, et ça ne leur était pas connu. Donc ça m'a conduit à réfléchir, à enseigner sur ces questions, et surtout à me demander quelle était, parmi les principales couleurs, quelle était celle qui était la plus fréquemment victime de ces deux travaux du temps, au fond. L'évolution chimique des pigments et les transformations des lumières qui éclairent les œuvres. Eh bien, à coup sûr, c'est la couleur verte, la grande victime. Chimiquement, en peinture comme en teinture, le vert est une couleur extrêmement instable jusqu'à l'apparition des pigments de synthèse dans le courant du XIXe siècle. C'est une couleur changeante. On a d'ailleurs un certain nombre de remarques de grands artistes qui se plaignent de cette instabilité. Et pour moi qui suis historien, ce qui est fascinant, c'est que cette couleur chimiquement instable en peinture et en teinture, peu à peu, a été associée symboliquement à tout ce qui était instable. L'enfance, la jeunesse, l'amour, l'espérance, tout ça, ça change, ça tourne. Mais aussi la chance, la fortune, le hasard, le jeu, l'argent. Ça tourne aussi comme la roue de la fortune. Et tout ça, plus ou moins, s'est associé à la couleur verte. Les tapis de jeu, par exemple, sont verts déjà au XVIe siècle. La langue verte, c'est la langue des joueurs de cartes. L'argent est vert symboliquement bien avant l'apparition du billet dollar. Donc il y a là un rapport tout à fait intéressant entre le chimique et le symbolique. Mais ça n'a pas beaucoup bénéficié à la couleur verte qui est plus souvent prise en mauvaise part qu'en bonne part. Toutes les couleurs, bien sûr, sont ambivalentes, mais le vert a ses mauvais aspects plus fréquemment mis en avant que les bons. Et il y a encore l'idée, qui vient de loin, que le vert porte malheur, et pas seulement au théâtre, ni sur les bateaux, mais un peu partout. Et c'est une idée qui, j'essayais de retrouver d'où elle venait, elle n'est pas là dans l'Antiquité, mais elle est déjà là, au cœur du Moyen-Âge, quand le vert devient la couleur du diable, et surtout des créatures du diable, il y a tout un bestiaire vert qui l'accompagne, des démons, des petits êtres étranges, les ancêtres de nos petits hommes verts sont déjà là, au XIVe et XVe siècle, les sorcières ont des rapports étroits avec la couleur verte. Bref, il y a un dossier sur la symbolique du vert qui est en prise directe avec les pigments et les colorants qui servent à fabriquer cette couleur. Alors, l'idée m'est venue de vous présenter, un peu au pas de course, pardonnez-moi, une histoire du vert dans la peinture européenne, une histoire qui sera plus pigmentaire qu'esthétique, mais les deux choses sont complètement liées, bien sûr, et je voudrais le faire... non pas des origines à nos jours, parce que vous le verrez, les origines sont sans vert. Le vert n'apparaît qu'assez tardivement. Et pour ce faire, je m'appuierai donc sur mon PowerPoint. Dans les grottes, les peintures pariétales ne présentent jamais ni de vert ni de bleu. Du rouge, beaucoup de rouge, du noir, du jaune, du blanc... Pas de vert, pas de bleu. Ici, c'est le plafond célèbre d'Altamira. En Espagne du Nord, nous sommes 15 000 ans avant le temps présent, mais ça n'est pas une exception. C'est la palette habituelle, même si c'est un peu trahi à la projection, que l'on rencontre sur ces peintures pariétales. Et ça dure des millénaires de la peinture sans couleur verte et sans couleur bleue. Ça continue dans la peinture romaine et dans la peinture grecque. Le bleu et le vert ne sont pas complètement absents, mais on peut avoir des ensembles peints, comme ici à Pompéi, la villa des Griffons, la grande salle très célèbre, pas un pouce de peinture verte et très très peu de peinture bleue. D'ailleurs, Campline, dans son Histoire naturelle, nous parle de la peinture grecque. Il est bavard sur la peinture grecque et de la peinture romaine. Il mentionne les quatre couleurs dont se servent les très grands peintres, le rouge, le blanc, le noir et le jaune. Pas de vert, pas de bleu. C'est au point d'ailleurs que dans la seconde moitié du XIXe siècle, il y a eu des débats, passionnants d'ailleurs du point de vue historiographique, entre archéologues, philologues, historiens de l'art, neurologues même, pour savoir si les Grecs et les Romains étaient aveugles au bleu et au vert. Surtout les Grecs, plus que les Romains. Surtout les Grecs, parce que ce sont deux couleurs, soit qu'ils ne nomment jamais, soit qu'ils nomment mal, par rapport à ce que nous qualifions de vert ou de bleu, et des couleurs qu'ils représentent extrêmement rarement. Les débats ont été passionnés, les querelles de savants également. Aujourd'hui, on a un peu abandonné cette idée que les Grecs anciens pouvaient être aveugles au bleu et au vert. Ça n'est pas parce que dans une langue donnée ou du point de vue archéologique ou artistique, on ne représente pas une couleur, qu'on ne voit pas cette couleur. Les problèmes se posent tout à fait autrement. Mais enfin, on l'a cru entre les années 1860 et 1914. Tout le monde ne l'a pas cru, mais certains l'ont cru, notamment certains neurologues. Dans la peinture romaine, on voit quand même un peu de peinture verte. Voici une peinture célèbre, un trompe-l'œil qui représente un jardin dans la célèbre villa de Livie, la femme d'Auguste, quelque part au nord de Rome. Nous sommes au tout début de l'ère chrétienne. Et ce vert a bien tenu. Ce sont pour l'essentiel des terres vertes qui sont présentes ici et qui ont traversé les siècles parce que nous sommes, au fond, dans la cave. Et ce vert et tous les autres pigments ont été préservés de la corruption. Cette discrétion du vert dans la peinture occidentale, non pas absence, mais discrétion, traverse tout le haut Moyen-Âge, que ce soit dans la peinture murale ou dans la peinture de manuscrits. on ne trouve pas beaucoup de verres. On peut même trouver, comme ici, des ensembles picturaux où cette couleur est totalement absente. Le bleu également, vous le voyez. C'est la crypte de Saint-Germain d'Auxerre. Nous sommes autour de l'an 1000, un peu avant, un peu après. Il n'y a pas un pouce de peinture verte. Et voilà un manuscrit contemporain, un évangéliaire de la région, peint dans la région de Trèves, toujours vers l'an 1000, montrant l'empereur, beaucoup de rouge, bien sûr, héritier du pourpre de l'Antiquité, mais ni vert ni bleu. Alors bien sûr, j'ai triché un peu en choisissant des images où on ne voyait ni vert ni bleu, mais il y en a quand même énormément, et les choses ne commencent à changer qu'à l'époque féodale, au cœur du Moyen-Âge, où le vert et le bleu se revalorisent au fond grandement, avec la chevalerie, avec la courtoisie, avec le culte du printemps, du verger, certaines poésies qui cherchent à chanter la nature. Les peintres, et notamment les enlumineurs, mettent en scène plus de vers que pendant les siècles précédents. Mais il y a encore des domaines où le vers n'est pas très fréquent. C'est le cas de l'héraldique. Moi qui suis spécialiste des armoiries, je connais des ensembles comme cette page d'un armorial de la fin du XIIIe siècle où il y a 30 armoiries différentes. Pas une seule ne comporte la couleur verte, qu'on appelle sinople dans la langue française du blason, terme qui apparaît assez tard, hein, dans la seconde moitié du XIVe siècle. L'indice de fréquence de la couleur verte en héraldique dépasse rarement dans un ensemble d'armoiries données 5%, alors que pour le rouge, gueule en termes de blason, on est autour de 50 ou 60%. Même chose pour le blanc et pour le jaune, un peu moins pour le bleu et le noir. Donc le vert est très très en retrait, il n'est pas absent, mais son indice de fréquence est faible un peu partout en Europe. Ça fait un demi-siècle que j'essaye de comprendre pourquoi, et je n'ai pas de réponse à vous donner, ou de réponse satisfaisante, seulement des embryons de réponse. Peut-être que la difficulté de peindre en vert et de teindre en vert peut expliquer cette rareté du vert dans les armoiries. Dans l'enluminure, donc, on trouve du vert, et c'est toujours en petite surface, bien sûr, et quand on est historien de la peinture, c'est un paramètre qu'il faut toujours prendre en compte. Est-ce que l'on peint en grande surface, en moyenne surface, en petite surface? L'enluminure, ce n'est pas la peinture murale, bien sûr, et c'est plus facile de fabriquer du vert pour l'enluminure que pour le mur ou même les grands panneaux. Mais à la fin du Moyen-Âge, quand même, le vert, d'une part, se revalorise, et de l'autre, est bien plus présent dans la peinture européenne que pendant le Haut Moyen-Âge et que pendant l'Antiquité. À preuve, les recueils de recettes que nous avons conservés, et nous en avons conservé beaucoup, voilà une page évidemment illisible à la projection, c'est un réceptaire, un recueil de recettes destiné aux peintres et aux enlumineurs. Nous sommes à Nuremberg dans les années 1380-1400, des conseils pour fabriquer les couleurs. Nous avons conservé beaucoup de recettes de ce genre, un très grand nombre, surtout pour la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Ce sont des textes difficiles à étudier parce qu'ils sont écrits dans un latin de cuisine. Ils se copient les uns les autres à l'infini, donc les recettes sont difficiles à dater. Et puis, il manque toujours des indications de quantité, de durée, de proportion. La recette va nous dire, si tu veux faire un peu de bonne peinture verte, prends un peu de ceci, mélange avec une certaine quantité de cela, fais bouillir un certain temps, ajoute un peu de, etc. Les chiffres ne sont jamais indiqués comme si ce savoir se transmettait oralement et pas par écrit, ou était laissé à la liberté et à l'invention de l'artiste. C'est exactement la même chose dans les recettes, qui se ressemblent d'ailleurs, destinées à la médecine, à la pharmacopée, à la cuisine, à l'alchimie, au teinturier. Ce sont les mêmes types de textes avec le même vocabulaire, les mêmes verbes, prendre, broyer, laisser macérer, faire bouillir, laisser reposer. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces recueils, aussi bien pour la fin du Moyen-Âge que pour l'époque moderne, la couleur verte occupe beaucoup de place. Pas autant que le rouge, qui est la couleur préférée et la couleur par excellence et qui va le rester jusqu'au XVIIIe siècle, aussi bien chez les peintres que chez les teinturiers. Mais le vert vient en deuxième position parce que fabriquer et surtout fixer le vert, c'est quelque chose qui est difficile. Donc pour moi, historien des couleurs, j'ai là un matériel documentaire intéressant, malgré ses difficultés, que je peux aujourd'hui compléter, corriger avec les analyses faites en laboratoire. Voici une page d'un manuscrit enluminé qui est en train d'être non seulement photographié, mais étudié quant à ses pigments. Les méthodes se sont enrichies au cours des 20 dernières années. Je suis d'assez près ces expériences qui nous apprennent beaucoup, notamment pour identifier la nature des pigments employés à telle époque, à tel endroit, sur tel support. Autrefois, les analyses étaient surtout chimiques, c'est-à-dire qu'il fallait faire des micro-prélèvements. Aujourd'hui, on fait aussi des analyses de type physique, sans micro-prélèvements. On fait tomber sur la couche colorée une lumière d'une certaine qualité et on observe comment cette lumière se comporte au contact du pigment et on en tire un certain nombre de conséquences. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas assez savant, mais j'ai compris cela. Et il y a des couleurs pour lesquelles c'est plus difficile que d'autres. Ce sont notamment toutes celles qui ne sont pas minérales, mais organiques. Donc, en croisant ces informations avec celles que nous apprennent les recueils de recettes, puis, pour l'époque des imprimés, les premiers manuels et traités de peinture, soit dus à des peintres, soit dus à d'autres auteurs, mais destinés à des peintres, on connaît assez bien les pigments utilisés dans la gamme des verts et leurs insuffisances, parce que c'est un leitmotiv qui revient souvent, y compris de la part des grands peintres. « Ah, si nous disposions dans la gamme des verts des pigments de même qualité que ceux dont nous disposons dans la gamme des rouges. » Pour la peinture médiévale et pour la peinture moderne, jusqu'au XVIIIe siècle, les principaux pigments verts sont l'amalachite, un verre de cuivre naturel qui, c'est pas une pierre précieuse, mais c'est quand même un minéral qui coûte cher, très cher, cousin de l'azurite, et qui a tendance, en vieillissant, à noircir ou à se décolorer un peu, selon la qualité de la malachite. Il y a les terres vertes, la célèbre terre de Vérone, déjà connue de la peinture romaine, terre de Bohême, terre de Chypre, elles sont très belles, un vert un peu grisé, très séduisant dans la peinture italienne, mais elles sont stables, mais peu couvrantes, et souvent on les utilise en sous-couche. En outre, l'emploi de liant est relativement compliqué. Il y a les verts végétaux, ce qu'on appelle les vers de vessie, parce qu'on les conserve en général dans une vessie de porc, du jus d'iris, du jus de poireau, des baies de nerprin surtout, une plante de la famille de la bourdaine, qui peuvent être très belles, mais qui ne sont pas très couvrantes, et surtout s'évaporent assez rapidement, ne tiennent guère. Et puis, il y a les verres de cuivre artificiels, ceux que l'on fabrique, et on connaît déjà toutes sortes de recettes dans l'Antiquité pour ce faire, en déposant sur des lamelles de cuivre, soit du vinaigre, soit des acides quelconques, soit même de la chaux ou de l'urine. Certaines recettes, d'ailleurs, parlent de l'urine d'homme ivre comme la meilleure, ou bien de l'urine d'âne comme meilleure parmi le monde animal. Ça donne des verres magnifiques, extrêmement poisons, hein, c'est ce que nous appelons le verre de gris, et surtout des pigments qui sont non seulement dangereux, mais instables. Ils attaquent le support sur lequel ils sont posés et ils ont tendance à contaminer les couleurs voisines. Et malgré tous ces défauts, on a utilisé ces verres de cuivre artificiels dans la longue durée, en général en petite surface, mais certains peintres n'ont pas hésité, vous allez le voir, de le faire en surface plus grande. Et puis, ce qui est frappant pour nous, bien sûr, c'est que les peintres sur panneaux, plus tard les peintres sur chevalets, les peintres sur murs, et même la plupart des enlumineurs, ne mélangent jamais, avant une date avancée, du jaune et du bleu pour faire du vert. C'est quelque chose qui apparaît nettement aux analyses, dont les recettes ne parlent jamais, ni les manuels de peinture avant le XVIIe siècle. C'est donc une pratique tardive qui relève pour une part du tabou sur les mélanges, qui est un fait général de société et de sensibilité. Ce sont les vieux tabous hérités du Lévitique et du Deutéronome que le christianisme médiéval a repris. Ne pas mélanger deux produits d'origine différente, ne pas mélanger en matière de pigments un produit animal avec un produit végétal, un produit végétal avec un minéral. On le fait quand même dans certains cas. Mais ça explique peut-être pourquoi on ne mélange pas de jaune et de bleu pour faire du vert, alors que nous tous, dès l'école maternelle, nous avons appris à procéder ainsi. Voici les quatre pigments principaux utilisés pour la peinture verte de l'Antiquité romaine jusqu'au XVIIIe siècle. Ici, la malachite, un bloc de malachite. Ici, de la terre verte de Bohême, celle-ci. Ici, une plaque de cuivre oxydée, le verre de gris. Et puis ici, des baies de nerprin que l'on va transformer soit en teinture, soit en peinture, parfois même en laque, et que l'on conserve dans des vessies de porc. C'est le fameux verre de vessie. Ici, deux schémas qui peuvent expliquer pourquoi on ne mélange pas de jaune et de bleu pour faire du vert. En haut, le classement ordinaire des couleurs quand on les pose sur un axe en Europe, depuis Aristote jusqu'à Newton. En bas, le spectre, découvert par Newton en 1666, spectre qui est resté jusqu'à aujourd'hui, le classement de base, le classement scientifique de base pour ordonner les couleurs. On ne le connaît pas avant la fin du XVIIe siècle. Donc quand on est historien, et historien de la peinture encore plus, évidemment, pour les périodes antérieures au XVIIIe siècle, c'est ce classement-là qu'il faut prendre en compte dans les analyses et dans les réflexions. Il va du blanc au noir, à côté des blancs il y a les jaunes, au milieu le rouge, puis vert, bleu, violet et noir. Et on voit très bien que vert n'est pas entre bleu et jaune, il est entre rouge et bleu. D'ailleurs, pour l'œil médiéval et encore pour l'œil de la Renaissance, poser du rouge à côté du vert, ça n'est pas du tout un contraste violent comme dans nos feux tricolores, c'est au contraire très doux, c'est presque du camailleux. Donc en termes de regard posé sur les œuvres, en termes de sensibilité, méfions-nous des anachronismes. Ne prenons pas pour contraste violent, dans un tableau donné du XVe ou du XVIe siècle, la juxtaposition des verts et des rouges. C'est assez doux pour l'artiste et pour ses spectateurs. Donc pour que le vert trouve sa place entre le jaune et le bleu, ici, dans le spectre, il faut attendre en effet que Newton ait découvert le spectre et proposé un nouveau classement des couleurs, un classement dans lequel il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc, ce ne sont plus des couleurs à part entière, ce sont des non-couleurs même pour certains. Et le classement est bouleversé. Le violet, par exemple, qui, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, est toujours entre bleu et noir, n'a pas beaucoup de rapport avec le rouge, de nouveau, va en avoir. Dans le spectre, on a ici les ultraviolets et de l'autre côté les infrarouges, mais si on fait un cercle, le rouge et le bleu ont un enfant, pourrait-on dire, qui est le violet, ce qui est inconnu avant Newton. Alors malgré cela, de très grands peintres arrivent à faire des fers magnifiques, ici, hein, les tableaux les plus célèbres de toute l'histoire de la peinture. Le mariage Arnolfini, enfin on ne l'appelle plus comme ça aujourd'hui, de Jan van Eyck, 1435, la magnifique robe de la jeune femme, qui est bien enceinte, puisque on en a beaucoup débattu, est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle n'est pas enceinte. Au sommet du lit, on voit sculpter l'image de Sainte Marguerite, qui est la patronne des femmes enceintes. Van Eyck a réussi à faire un très beau verre en utilisant un verre de cuivre, mais posé sur une sous-couche de terre verte, ce qui évite au verre de cuivre d'attaquer le support. Ici, ce sont des planches de bois avec des rehauts de malachite et de nerprin. Donc il a utilisé les quatre pigments principaux pour peindre en verre dans cette première moitié du XVe siècle. Les très grands peintres des verres, ce sont les Vénitiens du XVIe siècle, notamment Giorgione. Voici encore un des tableaux les plus célèbres de toute l'histoire de la peinture. La tempête, un des plus énigmatiques aussi. Nous sommes 1507, 1506, 1507. Un détail ici avec des verres bleutés. Giorgione, comme tous les Vénitiens, utilise beaucoup la terre de Vérone, mais traitée d'une façon particulière. Ça donne ces tons verts qui, ici, ont bien résisté. Ce n'est pas toujours le cas au travail du temps. Titien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un magnifique peintre des rouges, mais aussi des verts, et surtout véronèse. Ce que nous appelons vert véronèse n'existe pas au XVIe siècle, c'est une création, c'est un pigment de synthèse du XIXe siècle qui a reçu le nom de vert véronèse pour des raisons commerciales et publicitaires, mais Véronèse est quand même un peintre magnifique des verts. Voici le suicide de Lucrèce, 1580, avec ici encore des verres de cuivre associés à de la malachite et puis des verres végétaux. Donc, malgré les difficultés, les grands peintres s'en sortent et n'ont pas besoin de mélanger des pigments jaunes et des pigments bleus pour fabriquer du verre. D'ailleurs, quand on fait des analyses, et les très grands peintres ont la chance d'avoir leurs tableaux qui ont été analysés du point de vue pigmentaire depuis longtemps, jamais, jamais, jamais on ne trouve chez Van Eyck, chez Velázquez, chez Raphaël, chez Caravage, chez Rubens, chez Poussin, chez Vermeer, jamais on ne trouve le mélange du jaune et du bleu pour faire du vert. Il n'empêche que dans le courant du XVIIe siècle, on réfléchit beaucoup sur la hiérarchie des couleurs, leur généalogie, notamment chez les peintres. Voici un schéma qui est sorti de l'atelier de Rubens. L'atelier de Rubens, à Anvers, c'est un endroit fréquenté par 150 ou 200 personnes, dont des hommes de science. Et un ami de Rubens, un jésuite, François d'Aguillon, a proposé des 1613-1614, dans une publication consacrée à l'optique, ce schéma-là qui nous montre, ici en bas, j'ai du mal avec la souris, pardonnez-moi, qui nous montre comment le vert, au fond, est le produit de l'association du jaune, ici, et du bleu, ici. Et c'est quelque chose qui va se développer dans la première moitié du XVIIe siècle. On réfléchit beaucoup chez les peintres, mais aussi chez les teinturiers. Combien de couleurs sont nécessaires, à minima, pour fabriquer toutes les autres? Et alors, on part de 7 couleurs, puis 6, puis 5, peut-être 3 seulement. On en débat beaucoup. Finalement, s'impose l'idée, au milieu du XVIIe siècle, que 5 couleurs suffisent. Je vais vous lire un passage d'un traité consacré aux couleurs dû à un très grand savant, l'Irlandais Robert Boyle, un chimiste polyvalent, qui écrit en 1664. Il n'y a que très peu de couleurs simples ou primitives dont les diverses combinaisons produisent en quelque sorte toutes les autres. Car bien que les peintres puissent imiter les teintes des innombrables couleurs que l'on rencontre dans la nature, je ne crois pas qu'ils aient besoin, pour mettre en valeur cette extraordinaire variété, d'employer d'autres couleurs que le blanc, le noir, le rouge, le bleu et le jaune. Ces 5-là, diversement combinés, et aussi, si je puis dire, décombinées sont suffisantes pour créer un nombre considérable de couleurs, un nombre tel que ceux qui ne sont pas familiers de la palette des peintres ne peuvent même pas imaginer. C'est un beau texte, mais évidemment, pour la couleur verte, il est dépréciatif, puisque la couleur verte ne fait plus partie de ces couleurs que j'appellerais de base, celles à partir desquelles on peut fabriquer toutes les autres. Il y a, comme le montre déjà le schéma d'Aguillon, au rang supérieur, le blanc, le jaune, le rouge, le bleu et le noir. 1664, pour le texte que je viens de lire, c'est-à-dire 2 ans avant que Newton ne découvre le spectre et qu'il fasse sortir le noir et le blanc de l'ordre des couleurs. Et désormais, on va vivre sur cette double idée. Le classement normal des couleurs, c'est le spectre. Plus de noir, plus de blanc. Le vert trouve sa place entre le bleu et le jaune. Et ce n'est pas une couleur primitive, comme dit Boyle, une couleur principale, une couleur primaire, comme on va dire plus tard, mais une couleur complémentaire au même titre que l'orangé et le violet. Il est descendu d'un cran dans la hiérarchie des couleurs. Et le XVIIIe siècle va avoir la passion des nuanciers, de la colorimétrie, la couleur désormais mesurable, reproductible. On se passionne pour les nuances et les sous-nuances. Le XVIIIe siècle n'est pas un grand siècle du vert, c'est un grand siècle du bleu, mais ça profite quand même au vert, notamment parce qu'un chimiste amateur, un pharmacien de Berlin, Dippel, a inventé de manière un peu accidentelle un pigment nouveau, le bleu de Prusse, dans les années 1720. Il a gardé son secret pendant quelques années, puis celui-ci a été connu. Ça a permis de diversifier, non seulement en peinture, mais un peu en teinture aussi, la gamme des bleus, spécialement des bleus foncés et par extension des verts foncés, parce que on est à une époque, au XVIIIe siècle, où on mélange du bleu et du jaune pour faire du vert, spécialement du bleu de Prusse avec du jaune de plomb ou du jaune d'étain. C'est une pratique courante, mais qui scandalise certains grands peintres. Voici un tableau de Jean-Baptiste Oudry, La Ferme, vers 1740. Oudry, à l'Académie royale de peinture, en 1742, se scandalise que certains de ses collègues mélangent du jaune et du bleu pour faire du vert. Ça lui semble absolument indigne d'un grand peintre. Et lui ne le fait pas, ce qui lui permet de faire des vers magnifiques, et surtout des vers qui n'ont pas été trahis par le travail du temps. Le fait qu'il se scandalise vers 1740 montre qu'il est un des derniers à ne pas mélanger le jaune et le bleu pour faire du vert. C'est une pratique qui est devenue omniprésente dans la peinture européenne, mais qui trahit parfois les peintres. Voici un autre tableau parmi les plus célèbres de l'histoire de la peinture, et un tableau qui va en s'abîmant. Quand je l'ai vu quand j'étais jeune homme, il n'avait pas l'aspect qu'il a maintenant, quand je l'ai revu il y a quelques mois. C'est la charrette de foin de Constable. Constable a fait des vers, magnifiques sans doute, en utilisant du bleu de Prusse et du jaune d'étain, et il a été trahi à la fois par le bleu de Prusse qui s'est quelque peu évaporé et qui s'est grisé, et le jaune d'étain qui est devenu plus ou moins ocre. Et ça donne ceci. Bon, la projection trahit encore un peu plus, c'est pas aussi abominable, mais quand même, pour un des tableaux qui est parmi les plus beaux de cette époque, seulement 1820. Une autre étape importante après Newton, après Daguillon, c'est au XIXe siècle la publication en 1839 de l'ouvrage de Chevreul, immense savant, immense chimiste, de la loi du contraste simultané des couleurs, qui contient un certain nombre de théories dont vont s'emparer les artistes, qui n'ont pas tous lu Chevreul, parce que lire Chevreul, c'est un travail un peu pesant, mais il y a des abrégés des théories de Chevreul, notamment en 1867, un immense succès de librairie pour la grammaire des arts du dessin de Charles Blanc, 1867, pardon, grammaire des arts du dessin, avec deux gros chapitres consacrés aux couleurs, où sont résumées les théories de Chevreul. notamment son cercle chromatique, sa théorie reprise bien sûr des époques précédentes, distinguant des couleurs primaires et des couleurs complémentaires, le vert n'étant qu'une complémentaire, et sa théorie du contraste simultané et de la façon dont l'œil est aussi important que la matière colorante dans le rendu des couleurs. Et sur la toile, il n'y a plus besoin de poser un pigment vert, mais il suffit de juxtaposer du bleu et du jaune, sans même les mélanger, les rapprocher, pour que dans l'œil se fasse ce fameux mélange optique qui va faire que l'on va voir du vert. C'est ce qu'a fait Monet, par exemple, pour ce tableau magnifique qui s'appelle « L'été », 1875, et beaucoup d'impressionnistes ont suivi ici Chevreul, de même qu'après eux, les pointillistes, les divisionnistes, des post-impressionnistes, etc., etc. Encore ne faut-il pas être trahi par ces bleus et par ces jaunes, même si on ne les mélange pas, si on se contente de les juxtaposer. C'est ce qui est arrivé à Seurat, pour un autre tableau célébrissime, le dimanche d'été à la Grande Jatte. Seurat a, en certains endroits, juxtaposé, pas partout, c'est ça qui est étonnant, juxtaposé des bleus et des jaunes pour faire des verts, et en certains endroits, ces jaunes, ici ce sont des jaunes de chrome, ce ne sont plus des jaunes d'étain, se sont abîmés, se sont oxydés, et ont un peu trahi l'économie chromatique du tableau. Ça pose le problème des restaurations. Que faire? Jusqu'où aller? Avec la peinture ancienne, c'est compliqué parce que les peintres du Moyen-Âge, de la Renaissance, du XVIIe siècle encore, ont tout à fait conscience que les pigments sont instables et qu'ils vont évoluer. Et ils travaillent en conséquence. On a la chance d'avoir des lettres de Titien et des textes de Véronèse pour le XVIe siècle vénitien, où ils expliquent très bien qu'ils font en sorte, dans la façon de travailler leurs pigments, que la postérité va disposer d'un état X du tableau qui n'est pas l'état premier, mais qui est un état ultérieur qu'ils ont voulu, qu'ils ont pensé. C'est pour ça que nous, restaurateurs, quand nous voulons remettre un tableau dans son état premier, ce qui est un peu utopique, bien sûr, nous trahissons la volonté de l'artiste qui ne voulait pas du tout pour la postérité l'état premier, mais un état ultérieur qu'il avait pensé à l'avance. Pour les peintres du XIXe et du XXe siècle qui font confiance aux pigments de synthèse, le problème se pose différemment et naturellement ça crée des difficultés, d'où ces controverses que vous connaissez autour de la restauration des œuvres d'art et spécialement des tableaux. Les théories de Chevreul ont quand même un poids considérable sur la peinture, même chez des peintres où on ne les attendrait pas. Voilà le célèbre Café de nuit de Van Gogh, 1888, où Van Gogh écrit à son frère Théo, dans deux lettres, qu'il a choisi de donner comme dominante le rouge et le vert, une primaire et une complémentaire. Même un peintre aussi libertaire, si je puis dire, que Van Gogh, est presque esclave de cette théorie scientifique. Il y a peu de peintres qui, dans cette période de la deuxième moitié du XIXe siècle et les premières décennies du XXe, qui n'appliquent pas des théories scientifiques. Voilà deux exemples de peintres alors tout à fait libres. Le douanier Rousseau, voilà l'octroi dans les années 90, qui est un immense peintre des verts. Il va avoir une exposition au musée d'Orsay dans quelques mois. Et Valoton, autre peintre affranchi de toute théorie scientifique, lui aussi un immense peintre des verts, une couleur avec laquelle d'ailleurs il a des problèmes particuliers parce que quand il était adolescent, il a causé involontairement la mort d'un camarade dans le garage ou dans la cave, je ne sais plus, de la maison familiale. Il y avait des produits pour teindre en vert et lui et son camarade ont joué avec et c'était des produits tout à fait poison. Et le camarade en est mort et Valoton a gardé toute sa vie un problème particulier dans ses rapports avec la couleur verte. mais c'est un immense peintre des vers. Voici un paysage un peu tardif, c'est Valoton âgé vers 1920. Voici un Kandinsky, immense ennemi de la couleur verte. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un texte que je tire de son livre très célèbre « Du spirituel dans l'art », 1910. Kandinsky, comme beaucoup de ses collègues au Bauhaus, croit au contraste simultané, à la classification spectrale des couleurs et à la distinction entre primaire et complémentaire. Et alors le vert est un peu méprisé au Bauhaus, malgré toute l'affection que j'ai pour le Bauhaus, je le regrette. Voici ce qu'écrit Kandinsky, 1910. « Le vert absolu est la couleur la plus anesthésiante qui soit. Elle ne se meut dans aucune direction et n'a aucune consonance de joie, de tristesse ou de passion. Elle ne réclame rien, n'attire vers rien. Cette absence permanente de mouvement est certes une propriété bienfaisante pour des âmes et des hommes fatigués, mais devient, après un certain temps de repos, très très fastidieuse. La passivité est la propriété caractéristique du vert pur, propriété se parfumant cependant d'une sorte d'onction, de contentement de soi. C'est pourquoi, dans le domaine des couleurs, le vert correspond à ce que représente, dans la société des hommes, la bourgeoisie. C'est un élément immobile, satisfait de lui-même, limité dans toutes les directions. Ce vert est semblable à une grosse vache, pleine de santé, couchée, figée, capable seulement de ruminer en contemplant le monde de ses yeux stupides et inexpressifs. » C'est vraiment très méchant pour la couleur verte. Évidemment, « Du spirituel dans l'art » est un livre passionnant, mais qui a beaucoup vieilli. L'idée que les couleurs infléchissent les sentiments pèse sur l'âme, c'est évident. Mais ce que nous dit Kandinsky, ça vaut surtout pour Kandinsky. On ne peut pas généraliser de manière universelle. C'est pourtant ce qu'on a fait un peu au Bauhaus. Je vais vous lire une autre phrase, plus courte, d'un collègue de Kandinsky et de Klee, que j'aime tant, Klee. C'est une phrase que j'emprunte à Johannes Itten. Lorsqu'il est jeune professeur au Bauhaus, en 1923, il a prononcé, puis écrit et répété dans tous ses ouvrages, cette phrase terrifiante. « Les lois de la couleur sont éternelles, universelles, absolues, hors du temps, aussi valables autrefois qu'à l'heure actuelle. » C'est une phrase qui va exactement à l'encontre de tout ce que je fais dans mon travail d'historien des couleurs, qui au contraire met en valeur le relativisme culturel des problèmes et des pratiques, des perceptions. Et tous les historiens des sciences savent bien que les savoirs ne sont jamais définitifs, ne sont pas des vérités, mais seulement des étapes dans l'histoire des savoirs. Malgré cela, donc, au XXe siècle, et je termine par là, le vert est en retrait dans la peinture, le cubisme, l'abstraction, voici un Mondrian, c'est banal, des années 30, s'en tient souvent aux couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, associées au noir et au blanc, plus de place pour le vert. Ça continue avec l'abstraction la plus contemporaine. Voilà un assemblage un peu pas très réussi de tableaux de Rothko, où la couleur verte n'est pas absente, mais beaucoup moins employée que d'autres. Et quand moi je visite des expositions de jeunes plasticiens, je suis frappé de la façon dont ils emploient rarement le vert, comme si le vert était victime de son ancienne mauvaise réputation, couleur instable, de son statut dévalorisé de couleur non pas principale, primaire, mais seulement complémentaire, c'est-à-dire secondaire, et peut-être aussi un peu victime de sa mauvaise réputation. Le vert, cela porte malheur. J'espère que ce n'est pas le cas à l'Institut de France. Merci à tous.